Ok, on va commencer notre, je pense que c'est la cinquième leçon, puis on est au sermon 3. Il va probablement y avoir une partie 1 et une partie 2 à cause de la longueur. Ce soir, on va regarder l'œuvre de la Providence dans nos vies avant la conversion. Autrement dit, comment Dieu a agi dans nos vies, dans un but précis, pour nous amener à partir de la naissance, aller jusqu'au moment qu'on a été converti. Comment les circonstances de Dieu ont contribué à toutes sortes de choses. Alors, dans le premier sermon, ce qu'on avait fait, on avait étudié que le décret de Dieu dans l'éternité, c'était son plan, et que la providence n'était que l'exécution ou le déroulement de son plan dans l'espace et dans le temps. Alors, on avait observé que Dieu préserve sa création, qu'il coopère avec elle et qu'il la gouverne dans un but précis. Ça, c'était la leçon 1. Dans notre deuxième leçon, on avait examiné comment Dieu supervise et intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus, à la fois collectivement et individuellement. Alors, cette providence-là, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est universelle, donc c'est sur toute la terre. Elle est efficace. Elle est bénéfique, c'est toujours pour notre bien, et elle contribue souvent à nous encourager, et souvent, elle va révéler un aspect ou un autre du caractère de Dieu. Alors, on pourrait dire que le Seigneur est le chef d'orchestre, qui orchestre tous les événements de notre vie, et c'est comme un concert, et c'est lui qui est le grand chef d'orchestre des circonstances de nos vies. On doit se souvenir, comme on avait vu dans la deuxième leçon, et le Seigneur nous disait qu'on doit faire un effort pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous et consigner ce qu'on se souvient qu'il a fait pour nous par écrit, toutes les miséricordes qu'il nous a accordées, pour qu'on puisse encore une fois plaider notre délivrance lorsque nous sommes dans la détresse. Dans ce troisième sermon d'aujourd'hui, dans le fond, j'appelle le troisième, mais c'est parce qu'ils ont toujours eu deux parties. On va regarder aujourd'hui les providences de Dieu dans nos vies, qui commencent bien, bien loin en arrière. Dans le sein maternel, commence déjà là. Ensuite, dans les circonstances particulières de notre naissance et de notre éducation. Autrement dit, le Seigneur a fait, moi dans mon cas, je suis venu au monde au lac Mégantic, en 1946, dans un pays avec des circonstances particulières. Il ne faut pas penser que c'est des hasards, toutes ces choses-là. Là. Dieu de toute éternité, avait prévu des circonstances particulières pour chacun d'entre nous. Dans ces choses-là, notre naissance, notre éducation, l'éducation que le Seigneur a permis qu'on ait, ça varie d'un individu à l'autre. Il y en a que c'est primaire, il y en a que c'est secondaire, il y en a que c'est collégial, il y en a que c'est universitaire, et il y en a que c'est post-universitaire. Si le Seigneur a permis toutes ces choses-là. Et aussi, regarder comment Dieu nous a guidés dans le choix de nos emplois et de nos professions. Dieu est en arrière de tout cela. Il y a des versets pour nous démontrer tout cela. L'auteur puritain John Flavel, ça c'est le livre que j'ai beaucoup utilisé pour bâtir les sermons. John Flavel, il a écrit un livre qui s'appelle « The Mystery of Providence ». C'est vraiment, les puritains, là, c'est des écrivains de premier ordre, et on voit qu'ils connaissaient leur Bible pas à peu près. Alors, « The Mystery of Providence », c'est vraiment intéressant. Alors, il nous fait remarquer, avec beaucoup de sagesse, qu'il ne fait que effleurer. C'est un livre peut-être de 300 pages, et il parle de tous les aspects, 10 aspects, parce que j'ai fait 10 sermons, qui vont être probablement 20 sermons, parce qu'ils sont tous coupés en deux, parce que c'est des sermons qui pourraient faire une heure, puis on les met en une demi-heure, donc ça multiplie par deux. Alors lui, il a dit que malgré tout ce qu'il a dit, puis je vous dis que je suis loin de vous donner tous les versets qu'il donne, puis tous les exemples qu'il donne, c'est un sujet littéralement passionnant, la providence de Dieu. Alors lui, il dit qu'après avoir tout dit ces choses-là, qu'il ne fait qu'effleurer le sujet des providences de Dieu, qui sont envers ses élus, qui sont nombreuses. Il dit qu'elles sont nombreuses, aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Alors, autrement dit, quand on se met à réfléchir sur la providence de Dieu dans nos vies, Il y a beaucoup de matériel à réfléchir parce que toutes les petites circonstances de nos vies à partir du début de nos vies amenées jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment extraordinairement profond et riche. Alors, bien entendu, on a besoin de méditer sur ces choses-là, celles qui sont visibles, parce qu'il y en a qui sont évidentes. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir évité un accident, d'avoir eu un accident d'un automobile dans lequel j'étais absolument sûr que je me tuais. Parce que dans ma tête, là, quand je l'ai eu, là, je dis, ça y est, c'est mon... t'as le temps de réfléchir à ça, c'est pas long, mais t'as le temps de réfléchir à ça. Je pensais que c'était fini. J'en suis sorti avec zéro, rien du tout. Alors, quelque part, le Seigneur travaille avec toutes ces choses-là. Une autre fois, à Sherbrooke, j'ai passé proche de me faire couper, casser une jambe par un automobile. Et tout le monde, on a tous des circonstances similaires dans nos vies. Faut pas penser que c'est des hasards, puis c'est toutes des affaires. Le Seigneur permet qu'on soit conscient de ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous rend beaucoup plus... qu'on le remercie avec beaucoup plus de facilité, autrement dit. Et on observe aussi, et on admire son intelligence et sa sagesse dans l'orchestration de tout cela. Une orchestration, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a comparé, le Seigneur, à un chef d'orchestre qui orchestre toutes les circonstances de nos vies, et c'est fait avec une grande intelligence et une grande sagesse. Tout ce que Dieu fait est fait avec une grande intelligence. Alors, ce qu'on va regarder, le premier point, la providence de Dieu qui agissait avec nous dès le sein maternel. Alors, quand on regarde, par exemple, l'Éternel nous dit dans le psaume 139, les versets 13 à 16, qu'il nous a personnellement tissés. Tissés, hein, c'est un mot, quand on regarde ça, on pense à ça, il nous a tissés dans le sein maternel. Psaume 139, versets 13 à 16. « Or, tu as possédé mes reins, dès lors que tu m'as enveloppé au ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le connaît très bien. L'agencement de mes os ne t'a point été caché lorsque j'ai été fait en un lieu secret et façonné comme de la broderie dans les bas-lieux de la terre. Tes yeux m'ont vu quand j'étais comme un peloton et toutes ces choses s'écrivaient dans ton livre au jour qu'elles se formaient. Même lorsqu'il n'y en avait encore aucune. » Ce passage-là nous parle de la merveilleuse structure de notre corps. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà étudié un petit peu l'anatomie, la physiologie. L'anatomie, c'est comment on est construit, la physiologie, c'est comment tout ça fonctionne. Mais c'est... Je me souviens d'avoir commencé un cours d'anatomie, physiologie, et c'est vrai qu'on en vient à la louange. On regarde ça, c'est d'une complexité incroyable. Alors, le Seigneur dit, par exemple, dans la version Martin, du verset 14 du psaume 139, « Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le connaît très bien. » Des fois, les écrivains, les auteurs chrétiens nous amènent des observations sur la langue originale, parce qu'on sait que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec, et parfois les mots révèlent des choses que on ne voit pas à première vue dans la traduction. Par exemple, le mot hébreu pour « j'ai été fait », ça a été traduit par le mot « j'ai été fait », c'est le mot hébreu Rushamti, qui est un mot très riche. La traduction de la Vulgate, par exemple, la Vulgate, c'est l'ensemble, c'est une traduction qui avait été faite par les catholiques, la traduit comme suit. J'ai été peint avec une aiguille. Je ne sais pas si vous prenez quelqu'un que je connais, que je vois quelqu'un qui connaît la peinture. Si tu fais une peinture puis tu fais ça à l'aiguille, là, c'est très précis, c'est très minutieux, c'est très petit. Alors, en anglais, il dit « painted with a needle ». Alors, le mot aura pu traduire « j'ai été peint comme avec une aiguille », tellement c'est riche de sens, là. Alors, toute personne qui a étudié l'anatomie et la physiologie humaine le moindrement peut témoigner de l'intelligence éblouissante présente dans toutes les parties du corps humain. Par exemple, l'étude du seul système nerveux On sait qu'on a au moins 12 systèmes nerveux, digestif, musculaire, etc. 12 systèmes. Et le système nerveux, si quelqu'un très intelligent là, commencerait à étudier ça à 15 ans, puis il étudierait toute sa vie, selon vous, as-tu fait le tour?
Non.
Même pas. C'est incroyable. Et je me souviens d'avoir déjà lu dans un livre qu'il y a un scientifique qui a connu le salut juste parce qu'il a étudié la structure de l'œil. Il a étudié la structure de l'œil et il a découvert tellement de choses extraordinaires dans cela que ça l'a amené à reconnaître que Dieu existe et que ça l'a amené au salut. Alors, des fois, on oublie ça, on est fait d'une étrange et merveilleuse manière dès qu'on se met à étudier ça. Alors, par exemple, si on est né avec tous nos membres, œil, oreille, bras, jambes, etc., ce n'est pas un hasard, mais bien l'exécution de la volonté de Dieu. Quant à notre apparence, à notre santé, à nos capacités et à nos talents, on n'est pas le fruit du hasard. Dieu nous a modelés, Dieu nous a amenés. Pourquoi moi j'ai mes deux bras? Parce qu'il a décidé que j'aurais deux bras. Pourquoi il y en a qui viennent au monde, ils ont juste un bras? Tout cela, c'est une décision de l'Éternel. Alors, ça peut nous amener, si on est le moindrement reconnaissant, à voir que Dieu vraiment fait des choses extraordinaires pour nous. Alors, si on a des doutes quant à la miséricorde de Dieu pour nous avoir créés complets et sans infirmité, il nous suffirait d'aller voir des aveugles. Allez-y dans un établissement d'aveugles. Allez-y dans un établissement de sourds. Allez-y dans un établissement de muets. Allez-y dans un établissement où il y a des paralytiques. Et là, vous allez mieux apprécier la bonté de Dieu à votre égard de vous avoir fait complet. Parce qu'il y en a qui souffrent énormément à cause de leurs choses. Alors, dans Job, chapitre 3, les versets 11 à 16, Dieu a non seulement permis, mais il a voulu notre naissance. Comme Job, quand il dit « Que ne suis-je mort dès la matrice? Que n'ai-je expiré aussitôt que je suis sorti du ventre de ma mère? Pourquoi les genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi m'a-t-on présenté les mamelles afin que je les suçasse? Car maintenant, je serai couché, je me reposerai, je dormirai. Il y aurait dès lors du repos pour moi. Avec les rois et les gouverneurs de la terre qui se bâtissent des solitudes, ou avec les princes qui ont de l'or et qui ont rempli d'argent leur maison, ou connais-je été comme un avorton caché, comme les petits-enfants qui n'ont point vu la lumière. » Dans le psaume 22, versets 9 à 10, « Cependant, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma mère. J'ai été mis en ta charge dès la matrice, tu es mon Dieu fort, dès le ventre de ma mère. » Alors, c'est des fois juste de se souvenir de ça, que Dieu avait déjà un œil de providence sur nous, même dès le ventre de notre mère. Et dès le sortir, ça dit dans le verset 9, « C'est toi qui m'as sorti hors du ventre de ma mère. » Des fois, on dit « Ah, ben c'est le médecin. » Oui, le médecin, Dieu se sert d'un instrument. Mais le texte dit bien que c'est toi qui m'as sorti hors du chose de ta mère. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est celui de la providence qui agissait à notre naissance et qui agissait dans les circonstances de notre éducation. Par exemple, Dieu a choisi pour chacun d'entre nous et pour chacun des individus de toute la terre la place et l'époque de notre naissance. Comme je vous ai dit tantôt, moi, c'est Lac-Mégantic, et c'est 1946, vous, ça peut être une autre ville, ça peut être un autre moment, une autre année. Et c'est le Seigneur lui-même qui a choisi les endroits de notre naissance et les époques. Parce que les époques n'apportent pas le même type d'opportunité. Est-ce que si j'étais né aux Indes, par exemple, est-ce que je serais chrétien aujourd'hui? Alors, juste de se souvenir que Dieu a choisi nos circonstances, c'est bénissant. Psaume 114, verset 20. « Aie égard à l'Alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Vous êtes né au monde dans un milieu, moi, mon père est un ouvrier, milieu ouvrier, pas riche, Et le Seigneur a permis que je vienne au monde là-dedans. J'aurais pu venir au monde dans une famille riche, j'aurais pu venir au monde dans une famille très éduquée, etc. C'est le Seigneur qui choisit nos circonstances. Est-ce qu'on serait les mêmes personnes si on avait été élevé, par exemple, dans des pays pauvres d'Afrique, comme on a vu tout à l'heure en Érythrée, là, ou dans d'autres pays, l'Éthiopie, ou dans des pays comme l'Asie, ou si on serait venu au monde dans le Grand Nord, est-ce qu'on serait les mêmes individus qu'on est aujourd'hui? Alors, serions-nous, si le Seigneur aurait permis, par exemple, qu'on naisse dans un siècle différent, par exemple, comme au Moyen Âge, où les personnes mouraient souvent en bas de 40 ans, le taux de mortalité était énorme à cette époque-là. Pourquoi le Seigneur, aujourd'hui, on vit qu'à 90, 100 ans en Amérique du Nord? Pourquoi? Parce que les circonstances que Dieu permet, on est gâtés, comme on dit. Parce qu'il y a des pays en Afrique qui ne connaissent pas les circonstances que nous, on connaît ici. Et c'est Dieu qui choisit ça pour chacun des individus. À quelque part, ça devrait nous emmener de la reconnaissance. Alors, Jérémie, chapitre 10, verset 25, où on parle de nations qui n'ont pas de connaissance de l'Éternel. Le Seigneur a permis que je vienne au monde dans un pays, le Canada, le Québec, où il y avait, même si on peut faire des reproches concernant la religion catholique, on avait quand même une certaine éducation concernant la personne de Dieu, concernant Christ et ces choses-là. Ça dit dans Jérémie 10, 25, « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent point et sur les familles qui n'invoquent point ton nom, car ils ont dévoré Jacob, ils l'ont, dis-je, dévoré et consumé. » Et ils ont mis en désolation son agréable demeure. Imaginez-vous, alors on parlait de quelque chose comme même 0.32% de véritables chrétiens, d'après ce que je peux voir, en Érythrée. Alors, quelqu'un qui vit au monde en Érythrée, il n'a pas les mêmes chances qu'on a ici au Québec ou en Amérique du Nord, ou même en Europe. Et le Seigneur n'a pas permis non plus qu'on vienne au monde dans des nations idolâtres. Psaume 97, verset 7, « Que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient aux idoles soient confus, vous, Dieu, prosternez-vous tous devant lui. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 13, « Et quant à l'avènement du méchant, il est, selon l'efficace de Satan, en toute puissance, en prodiges et en miracles de mensonges, et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont point cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité. Mais, mes frères, les bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous a élu dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. Alors, nous, on est nés dans un pays où l'Évangile était quand même accessible. Il y a des pays où ce n'est pas le cas du tout, là. Alors, Romains, chapitre 10, versets 14 et 15. « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? » Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il y a quelqu'un qui leur prêche, s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Et comment prêchera-t-on sinon qu'il en ait qui soit envoyé? Ainsi qu'il est écrit, « Oh, que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux! Les pieds, dis-je, de ceux qui annoncent de bonnes choses ou de bonnes nouvelles. » Alors, on a vu l'endroit et l'époque, maintenant l'éducation qu'on a reçue. Dans Proverbe 22, verset 6, si on vient au monde dans un endroit où le nom de Christ est connu et honoré, déjà Dieu avait permis des circonstances vraiment particulières pour nous. Ça dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. » Un jeune qui vient au monde dans une famille chrétienne et qui reçoit une éducation chrétienne pendant des années, il ne connaît pas jusqu'à quel point il a été privilégié. Il a été privilégié à un degré tellement élevé qu'il ne s'en rend même pas compte. Peut-être qu'un jour, si Dieu le sauve, il va se rendre compte de ce qui a été fait et ce qui a peut-être contribué à l'amener au salut. Ézéchiel, chapitre 20, versets 4 à 7. Le paresseux ne labourera point à cause du mauvais temps, mais il mendiera durant la moisson et il n'aura rien. Le conseil dans le cœur d'un digne personnage est comme des eaux profondes, et l'homme intelligent les puisera. La plupart des hommes prêchent leur bonté, mais qui est-ce qui trouvera un homme véritable? Oh, que les enfants du juste qui marchent dans son intégrité seront heureux après lui. Psaume 16, versets 2 à 6. Mon âme, tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, mon bien ne va pas jusqu'à toi, mais aux saints qui sont en la terre et à ces personnes distinguées en qui je prends tout mon plaisir. Les angoisses de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Je ne ferai point leur aspersion de sang et leur nom ne passera point par ma bouche. L'Éternel est la part de mon héritage et de mon breuvage. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux me sont échus en des lieux agréables et un très bel héritage m'a été accordé. Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous parle du très, très grand privilège d'avoir reçu une instruction chrétienne, si sommaire soit-elle. Parce que moi, je me souviens qu'à quand on allait à l'école, quand même, on nous apprenait des choses sur le Seigneur. Il y avait probablement beaucoup d'erreurs théologiques dans leurs enseignements, mais il reste que, quand même, on recevait un enseignement. Éphésiens chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'héritez point vos enfants, mais nourrissez-les sous la discipline et en leur donnant les instructions du Seigneur. » Genèse chapitre 17, versets 17 à 19. Bien sûr, des fois dans la vie, il faut se rendre compte que nos choix ont une influence sur des générations à venir. Et le chapitre 17 de la Genèse, c'est celui qu'on va bientôt étudier, parce qu'on est rendu là, ou à peu près là, ça nous montre que quand quelqu'un fait un bon choix, ça peut avoir des répercussions qui s'étalent sur des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Il faut se rendre compte de ça, nous, aujourd'hui, parce que c'est une grande importance. Voyez-vous, verset 17 de Genèse 17, « Alors Abraham se prosterna la face en terre et sourit, disant en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, aurait-elle un enfant? » Et Abraham dit à Dieu, « Je te prie qu'Ismaël vive devant moi. » Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Alors, pour un geste qu'Abraham faisait, ça a eu une répercussion sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de générations après. Mais ça s'applique encore, quand on lit des passages comme ça, il faut se rendre compte que les choix que nous on fait encore aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur plusieurs générations. Je me souviens par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du Jonathan Edwards, qui était un grand prédicateur, il a fait « Sinners in the End of an Angry God », il a fait « Pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère », c'est un sermon le plus célèbre du monde, il n'y a pas un sermon plus célèbre que celui-là. Bon, cet homme-là, il a élevé ses enfants dans la crainte de Dieu. Tous ses enfants, de plusieurs générations après, il y en a qui ont fait l'exercice, sont allés voir. Son fils est devenu quoi? Le fils de son fils est devenu quoi? Le fils de son fils est devenu quoi sur plusieurs générations? Toute la descendance de Jonathan Edwards ont devenu des saints. Pourquoi? Parce que Jonathan Edwards avait fait les bons choix. Et les bons choix se répercutent sur nos générations futures. N'oublions jamais ça. Proverbe, chapitre 3, verset 33, « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » On va terminer avec 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. « Faut prendre conscience que parfois c'est un privilège immense que d'avoir été élevé par des parents pieux. » Aujourd'hui, on voit des enfants qui n'appartiennent pas au Seigneur, mais ils ont eu des éducations chrétiennes. Et c'est un immense privilège que s'ils ont vu sous leurs yeux l'exemple de parents pieux durant toute leur vie. Parce que la preuve, 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, Paul parle à Timothée et lui dit le privilège qu'il a eu d'avoir des parents qui ont été pieux. Il dit, « Et me souvenant de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Voyez-vous, il voit l'influence que l'éducation chrétienne qu'il a reçue de la part de sa grand-mère, de la part de sa mère. Alors, il faut être conscient que qu'est-ce qu'on donne comme éducation à nos enfants, c'est quelque chose de vraiment une grande bénédiction. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera cette leçon-là la semaine prochaine.